Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me parles à cœur.
Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et voilà une succession d'artistes qui ont défilé à l'instant dans le générique de l'émission cinéma sur votre radio, Radio Grand Air. Chaque semaine, on prend un petit peu les nouvelles de la brèche avec nous, Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe, ça va?
Eh ben ça va et toi? T'as passé un bon Noël?
Oui, bien sûr, oui, c'était tranquille. Mais oui, c'est surtout aussi un Noël au travail.
Exactement.
Oui, parce que là, on a quand même beaucoup de monde. On a terminé avec les arbres de Noël là, pendant la période scolaire. Là.
Ouais.
On en a reçu vraiment des centaines. J'ai pas le chiffre. Je me demande si ça avoisine pas ça dépasse les 1000, ça c'est sûr. Donc ça a été très bien fréquenté par les écoles, hein, qui étaient très demandeuses justement de séances comme ça pour les petits. Hein. Il y en avait pour tous les âges. Hein. Et puis on a enchaîné sur des vacances.
Absolument, voilà, hein, on va passer cette nouvelle année, déjà. on fera le point justement des fréquentations en 2024 hein, pour la prochaine émission de la nouvelle année, d'habitude, hein, c'est un petit peu la tradition ici sur la radio, avec un public qui a répondu présent déjà cette année, et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur hein, pour justement les salles de cinéma qui ont eu du mal à un moment donné avec ces moments un petit peu difficiles. De restrictions, on va dire. Voilà, aujourd'hui, donc, on va au cinéma.
Ah, tu penses au Covid?
Mais
c'est un cauchemar qui est loin derrière.
Ouais, exactement.
heureusement.
C'est un vieux souvenir.
Oui.
Alors, Pascal.
Eh bien,
allons-y.
Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 90 d'Entracte.
90, oui. Voilà, c'est la dernière émission de l'année. Pas la dernière saison, puisqu'on va continuer, mais en tout cas, voilà, pour cette nouvelle année, dernière ligne droite, on va se faire plaisir, c'est les vacances, et alors tu vas nous présenter le sommaire de l'émission, Pascal.
Alors évidemment, les vacances de Noël sont placées, on va dire, sous le signe des petits, des enfants, alors évidemment, il y a beaucoup de films pour enfants, hein. On va parler d'un film sur les renards de la banquise, Kinayuk. Plutôt intéressant, avec un sujet
derrière. Les renards sur la banquise.
Les renards de banquise, qui vivent dans l'Arctique. On va parler aussi des Inséparables. Là, on va partir plus du côté aux États-Unis, c'est au niveau des marionnettes.
Ah, très bien.
Donc, ils s'animent pendant la nuit. Et on va parler aussi de Sirocco et le royaume des courants d'air. Hein. Voilà, ça, c'est les trois petits films pour les enfants. On va parler aussi d'un film qu'on aura en sortie nationale, Les Secpas au ski.
Voilà, c'est pas les bronzés au ski, hein. C'est peut-être un petit peu pareil, non?
On verra. Disons que
on va rigoler.
Les bronzés au ski appartenaient à son époque, là, on va dire les secs pas au ski, je crois que c'est un petit peu autre chose, plus actualité. On va parler aussi d'un film, du film Chasse gardée.
Ah ça va être bien.
Avec Didier Bourdon, là, celui qui veut venir voir. Et on va parler aussi de l'avant-première, on passera Iris et les hommes.
Très bien.
Et voilà. Et dans le cadre donc de la sortie donc Chasse gardée, du film Chasse gardée, j'ai choisi comme personnage un personnage dont on parle pas beaucoup parce que c'est surtout un personnage, on va dire, de radio, de télé. On va parler de Chantal là-dessous.
Oui, voilà, qui a ses airs un petit peu décalés.
C'est la voix surtout.
La voix, hein, ouais. Elle s'est fait sa marque de fabrique, hein, tout simplement. Hein. Chantal là-dessous, qui est à mon avis, on va dire un planning assez chargé parce qu'on la voit souvent sur les plateaux de télévision, tu le disais, et puis également dans pas mal de films, hein, donc voilà, c'est quelqu'un qui plaît, qui fait rigoler.
Ouais, voilà, plateau télévisé et radio.
Et radio aussi.
Beaucoup de radio aussi, donc elle est un petit peu partout. Donc là, oui, elle fait partie donc du film Chasse gardée.
Voilà. Avec d'autres artistes, évidemment, d'autres comédiens qu'on va découvrir d'ici quelques instants. Vous en connaissez forcément. On va commencer donc cette nouvelle édition d'Entracte sur Radio Grand Air, le cinéma de la Brèche avec Artek. Je le rappelle, on va revenir sur un rendez-vous famille pour les plus jeunes. Et ça tombe bien, c'est les vacances. Hein.
Voilà, donc on va parler de la dernière création de Guillaume Majdaczewski. Donc un film franco-canadien. Italien, donc c'est qui s'appelle Kina et Yuk, un film d'à peu près 1h30, donc Renard de la banquise. Alors Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêts à fonder une famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord. La température est anormalement douce et la nourriture de plus en plus rare, obligeant Yuk à s'aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain un craquement terrible causé par la fonte des glaces va venir perturber cette nature majestueuse et préparer et séparer nos renards isolés chacun sur un bout de la banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires et se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits. Alors évidemment ça brosse tout un tas de sujets.
Ça me rappelle un film ça un peu. C'était quoi ce vieux film avec un artiste, avec un comédien américain. C'était un film un peu triste, hein, ces chiens de traîneau avec les loups. Tu te rappelles pas de ce film hein?
Ça me rappelle plein de films, mais alors j'ai pas les titres.
L'appel de la forêt.
L'appel de la forêt, qui est tiré du livre.
Oui.
Qui est tiré du roman. Oui, c'est un petit peu. Ouais, alors là, on n'est pas trop dans les mêmes.
Dans les mêmes
sujets quoi. En plus là on va parler de faune un petit peu en danger, ce qui est très bien d'ailleurs. On va parler aussi de réchauffement climatique
D'accord.
Je veux dire la banquise qu'ils font, il en est détaché un gros bout là ces derniers temps là. Un petit peu à la dérive. Donc oui c'est ça, tout ce changement un petit peu climatique qui oblige un petit peu les animaux à essayer de survivre, s'adapter. Non, ils peuvent pas s'adapter, c'est pas possible ça. Par contre, on s'adapte sur des dizaines de milliers d'années, mais pas en l'espace de 50 ans quoi. Donc voilà un petit peu la trame de l'histoire, donc Kina et Yuk, renard de la banquise, que nous aurons à la Brèche cette semaine.
Intéressant, on va regarder ça de près. Parmi les autres rendez-vous de cette semaine, tu vas nous présenter un autre rendez-vous aussi sympa à vivre à la Brèche.
Alors les Inséparables. Alors ça, c'est un film belgo-franco-espagnol du Nord 29, hein, c'est un film d'animation aventure de Jérémy Degrusson. Donc là, on va rentrer dans le monde des marionnettes aux États-Unis. Donc quand les lumières s'éteignent dans le vieux théâtre de Central Park, les marionnettes prennent vie. Don, qui joue le même rôle de bouffon depuis des années, il rêve d'avoir pour une fois un rôle de vrai héros et de découvrir le monde. Il prend son courage à deux mains et claque la porte. En chemin, il croise Gigi Doggy Dog, une peluche abandonnée qui aimerait devenir une star du rap. C'est les débuts d'une extraordinaire histoire d'amitié. Une grande aventure en plein cœur de New York pour transformer leurs rêves en réalité. Même les plus petits personnages peuvent jouer de grands rôles. Alors, Les Inséparables, donc, c'est réalisé par N-Wave, un studio d'animation européen fondé en 1994 et réputé pour son savoir-faire en images de synthèse et en 3D. Et on doit au studio des films comme Samy, Le Manoir Magique, Royal Corgi, Bigfoot Junior et Bigfoot Family. Ouais, ça, c'est des films qu'on a passé à la Brèche, tout ça. Hein. Donc, Les Inséparables est le quatrième long métrage d'animation que réalise donc Jérémy Degrusson. Il a décrit le film comme un conte moderne sur deux outsiders qui finissent par former la paire la plus parfaite d'anti-héros et qui deviennent amis malgré leurs différences. Il s'agit d'un hommage à l'amitié ainsi qu'une ode à l'imagination et à la créativité. Et leur pouvoir donc émancipateur. Alors au niveau du titre, Les Inséparables, comme nous dit donc Jérémy Degrusson, il nous dit « Nous voulions trouver un titre simple de portée internationale qui mette en valeur l'amitié inattendue mais authentique qui se développe tout au long du film. Nous pensons que cette amitié sincère parlera positivement au public de tous âges et de toutes origines et qu'elle apportera la bonne humeur dont nous avions besoin pour rajouter des couches abordant des sujets plus profonds », déclare donc Jérémy Degrusson. Donc parmi les influences du film, le réalisateur cite Toy Story. Et ce n'est pas un hasard, les scénaristes des Inséparables sont les auteurs du tout premier film de la franchise Toy Story. Et Jérémy Degrusson a aussi été marqué par l'univers de Terry Gilliam, en particulier Fisher King, le roi pêcheur. Il a trouvé une inspiration majeure dans le personnage que joue Ben Stiller dans La vie rêvée de Walter Mitty. Ouais, comme quoi il y a quand même pas mal de références là-dessous. Hein. Donc voilà un petit peu pour vous éclairer sur la dernière création donc de Jérémy de Grusson, donc Les Inséparables, donc à découvrir donc à la brèche pour les petits et puis autres d'ailleurs.
Voilà, on voit bien sûr les auditeurs ne peuvent pas voir sur nos écrans voilà les personnages qu'on va pouvoir découvrir et ça m'a l'air bien sympa. On va se détendre et on va écouter ensemble le teaser de ce rendez-vous à la brèche cette semaine.
Je n'en peux plus d'interpréter le bouffon. Je voudrais rien qu'une fois être le héros.
Don, le héros ?
Oui !
Je joue le héros parce que je suis naturellement le héros. La plaisanterie a assez duré. Ouf ! Axo !
Non.
Tu interprètes le bouffon. Parce qu'au fond,
tu es un bouffon.
C'est fini. Je quitte le théâtre.
On sait tous que c'est trop dangereux dehors.
Je lui donne 3 quarts d'heure, maximum.
Hey, t'es dans la pièce de théâtre, c'est toi qui te vautres dans les escaliers.
Moi, je suis DJ Doggy Dog.
Mais mes amis m'appellent. Bah, en fait, j'ai pas vraiment d'amis.
Je pars pour une grande quête. Je vais prouver au monde entier que je suis un héros.
Ça va, poteau?
Ya.
Le mec est complètement secoué, en fait.
Un plan. Mon plan, c'est qu'on improvise.
Fais le contraire d'un plan.
En avant tout.
T'es censé nous sauver, je
te Don, tu fais quoi là? Je m'apprête à sauver les bébés ratons laveurs.
Franchement, là, tu deviens lourd.
Nous voilà face à une imposante baleine. Les légendes ne meurent jamais.
Ton imagination te permet de voir le monde comme personne d'autre.
C'est tout ce qu'il y a de plus vrai, et je suis aussi ton ami. Alors prends ma main.
DJ Doggy, une machine à rime. Dès qu'il y a battle, moi je mets dans le mille.
Voilà, Les Inséparables avec plein de personnages.
Et de l'ambiance, hein.
L'ambiance
de la musique.
Et je trouve que la qualité aussi de cette réalisation de personnages est sublime, en tout cas. Voilà, on a fait pas mal de progrès en termes de technique et c'est vraiment sympa pour les plus jeunes.
Ça sera à découvrir donc à la brèche cette semaine. Hein.
On va retrouver notre rendez-vous pour les jeunes cette semaine à La Brèche, Sirocco et le Royaume des Courants d'Air.
Voilà, on va revenir dans une création donc de Benoît Chieux, donc qui est un film qui s'appelle comme ça, ça te fait rire.
Non, mais j'ai rien dit.
Quand je lis la première fois, j'étais là, bon, ok.
Non,
Benoît Chieux.
D'accord, très bien.
Donc Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, un film franco-belge d'1h20, c'est un film d'animation, donc c'est à partir de 6 ans. Donc c'est l'histoire de Juliette et Carmen, deux sœurs intrépides de 4 et 8 ans. Qui découvrent un passage secret vers le royaume des courants d'air, leur livre favori. Transformées en chats et séparées l'une de l'autre, elles devront faire preuve de témérité et d'audace pour se retrouver. Avec l'aide de la cantatrice Selma, elles tenteront de rejoindre le monde réel en affrontant Sirocco, le maître des vents et des tempêtes. Mais ce dernier est-il aussi terrifiant qu'elle l'imaginait? Point d'interrogation. Alors, après Tante Hilda, co-réalisée avec Jacques Rémy Girard, Benoît Chieux voulait travailler sur un univers personnel. Le point de départ de Sirocco et le Royaume des Courants d'Air est une série de dessins qu'il a conçus à cette époque. L'un représentait deux enfants agrippés à un moulin qui s'envolait, arraché au sol par un vent violent. Il se rappelle, le style graphique était déjà celui du film. Il répondait à une contrainte et à une ambition que je m'étais fixé alors. Je pensais qu'il serait intéressant de partir sur un concept où les décors seraient conçus de façon identique aux personnages afin de pouvoir les animer eux aussi. D'autres dessins sont venus de façon intuitive, sans autre lien apparent que le vent autour duquel s'est rapidement cristallisée l'idée du film. Représenter ce qui n'existe pas fait partie de mes obsessions de metteur en scène. Montrer le vent en animation est un formidable challenge. Autour de ce double jeu graphique et conceptuel, j'ai réalisé une trentaine de dessins avec déjà deux personnages d'enfants, un garçon et une fille, et des êtres fantastiques comme le crocodile volant que l'on retrouve dans le film. L'univers a séduit le producteur, donc Ron Diens, qui s'est très vite engagé dans l'aventure. Puis il a fallu écrire un scénario. Le cheminement a été long jusqu'à ce que Alain Gagnol rejoigne ce projet. C'est vraiment lui qui a écrit l'histoire en se servant des images comme des pièces d'un puzzle. Nous avons beaucoup échangé. D'autres dessins sont venus au fur et à mesure apporter leurs briques au scénario qu'Alain a bâti. Alors Sirocco, évidemment, a été projeté en ouverture du Festival international du film d'animation d'Annecy cette année. Hein, et il a remporté le prix du public. Hein.
Ah voilà, ouais. C'est un film
qui a été primé. Hein. Alors ce n'est pas seulement le vent lui-même qui intéresse Benoît Chieux dans Sirocco. C'est tout ce qu'il représente. Le metteur en scène développe à ce sujet. Le vent, c'est l'air qui nous entoure, le souffle qui nous permet de parler, de chanter. C'est la condition même de la vie et la respiration. C'est enfin ce que l'on nomme le Saint-Esprit dans la religion catholique et qui existe dans toutes ses croyances. On retrouve cette idée dans l'une des scènes clés du film où Sirocco, sans la toucher, transmet à Selma pour la ranimer le souffle de la vie. Le vent est ainsi présent sous diverses formes. La présence visuelle des nuages, la personnification de la tempête, le son, la musique. Je savais pouvoir compter à ce titre sur Pablo Picot, le compositeur, pour prolonger l'évocation au-delà de la dimension visuelle. La façon dont il a abordé le chant de Selma est pleine de sens. Ce chant est comme une respiration en deux temps, l'aspiration puis l'expiration. Il retrouve dans ce mouvement le flux et le reflux, sa force d'émotion. Et puis il y a la part laissée au moment de l'enregistrement à l'improvisation de la chanteuse Celia Kameni qui apporte quelque chose de nouveau, de libre, de totalement imprévu, en phase avec ce que j'ai recherché, à préserver donc tout au long de la fabrication du film. Une certaine fraîcheur, une certaine inventivité, une forme d'improvisation qui transparaît aussi dans la façon de mener le récit. Donc le schéma classique du récit initiatique avec ses épreuves à la faveur desquelles les héros se relèvent à lui-même n'intéresse pas Benoît Chieux. Pour le cinéaste, ce genre de scénario est très attendu. Il précise, Sirocco et le royaume des courants d'air, c'est juste un voyage avec tout ce que ce terme suppose d'imprévu, de fortuit et d'apparemment inutile comme ces petites sorcières qui apparaissent dans le film et n'ont aucun rôle particulier. Pourtant, une connivence s'installe entre Juliette et elle qui laisse durablement son empreinte. Le spectateur peut imaginer ce qu'il veut quant à la nature de cette complicité. Je crois que la vie est faite de cela. Chaque jour, on vit des rencontres anodines, parfois des épreuves qui nous construisent et nous déconstruisent aussi, sans que l'on ait parfois conscience sur le moment. Les faits les plus saillants ne sont pas toujours les plus marquants. Et bien voilà, un petit film d'animation, plein d'aventures.
Absolument.
Plein de découvertes. Mm-hmm. Et voilà, donc un film qui a été donc primé au Festival d'Annecy cette année. Hein.
Voilà, et réalisé donc par Benoît Chieux,
Benoît Chieux, absolument.
J'ai bien noté.
Tu fais bien rire d'ailleurs.
Non, mais voilà, on salue donc ce rendez-vous, cette performance en tout cas, et que vous avez la chance de découvrir sur les écrans de La Brèche cette semaine, juste avant les fêtes. Ça sera un petit peu prolongé juste après le 1er janvier. Vous avez jusqu'au 5 janvier précisément pour voir ce petit moment de plaisir en tout cas. Et ça fait plaisir. On va revenir sur notre rendez-vous détente cette fois-ci, bien sûr les jeunes, on va poursuivre avec un rendez-vous très famille, très convivial, je pense qu'on va se détendre, on va rigoler, avec les SECPA au ski.
Oui.
Est-ce qu'il y a une suite? C'est un deuxième volet,
oui.
C'est un deuxième volet, d'accord.
Oui. Dali et Haïm Bougueraba, évidemment, ils ont créé le premier, c'était les SECPA, en 2021.
Oui, c'est pour ça, ça me parle.
Oui. Qui a fait à peu près 700 000 entrées.
D'accord.
700 000 entrées, c'est quand même un joli score, hein, je trouve. Hein. Mm-hmm. Donc, les SECPA au ski, alors évidemment, tu avais évoqué les bronzés font du ski.
Oui, c'est très tendance, oui, c'est vrai que ça le côté raclette, le côté montagne.
Alors, oui, bien sûr.
Ça marche bien, ouais.
Bien sûr, ils ont été inspirés par ce film-là, Les bronzés font du ski, que tout le monde connaît, que tout le monde a revu des dizaines de fois.
Ouais.
Et effectivement, ouais, ils se sont un petit peu inspirés. Donc, effectivement, le premier volet, c'était les SECPA en 2021. Et là, ils se sont dit, tiens, on va aller faire skier.
On va aller faire skier.
Ouais. Donc au niveau des acteurs, on va retrouver Hichem Bougueraba, Walid Ben Amar, Arié Amrani, Kader Bueno, Charlie Agnobé, Lassane Amari, Anthony Pinheiro et Emma Smet. Emma Smet, alors oui, c'est une
Smet, oui,
pas de souci,
les
yeux de Johnny Hallyday.
Ouais, c'est son père.
Non, c'est pas son père, non. Emma Smet, à mon avis, je pense que c'est sa petite fille, Johnny Hallyday.
Ah, d'accord.
Parce que c'est Laura Smet qui est sa fille.
Ah oui, c'est Laura, pardon, je confonds.
Voilà, donc je pense que c'est l'autre génération tu vois, qui arrive derrière. Mm-hmm. Donc les SECPA se retrouvent pour une nouvelle année scolaire riche en aventures, propulsée directement en terminale. Deux challenges majeurs les attendent, la réussite de leur bac et leur participation soudaine aux Olympiades d'hiver inter-lycée. Donc à mon avis, ça va déménager. Hein. Alors les SECPA au ski et la suite des SECPA sortis en 2022 et qui a, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, rassemblé 700 000 spectateurs en salle. Les réalisateurs du premier volet, donc Ali et Hakim Bouguerraba, sont à nouveau derrière la caméra. Et ce dernier explique. Nous n'avions pas du tout imaginé ce succès, mais la suite était déjà écrite. En tout cas, sa trame, avec la montagne comme décor. Il y avait l'envie de développer une franchise. Le succès rencontré par le premier film à la sortie en salle a fait que les producteurs, Mandarin et Kalouche, nous ont suivis. Ben oui, 700 000 entrées, je t'assure que c'est vraiment un super score. Hein. Donc le décor du film n'est pas sans rappeler évidemment les bronzés fonds du ski pour lequel les réalisateurs ne cachent pas leur admiration. Et comme ils nous disent, on a grandi avec. Moi je viens du théâtre mais aussi du café-théâtre. Comme eux, le Splendide, ça fait partie du patrimoine français. Et ce que j'ai aimé avec cette troupe, c'est la façon dont ils sont passés de la scène au cinéma. Une aventure de dingue, déclare Ali Bouguerraba. Son comparse renchérit. Je l'ai vu, je ne sais combien de fois. Et oui, d'une certaine façon, à notre petit niveau, nous nous retrouvons dans cette bande, cette troupe de Splendide qui vient de la scène. Leur parcours est très inspirant, même si nous avons d'autres références. Et oui, le temps a passé depuis. C'est vrai.
C'est clair.
La société a changé également. Donc en matière d'humour, Hakim Bouguerraba cite Jim Carrey, Ben Stiller et Steve Carell, ainsi que le duo Toledano-Nakache en France. Pour Ali Bouguerraba, ce sont les comédies noires italiennes qui sont des références. Comme il nous dit, j'y ai souvent trouvé ce que je pouvais aimer chez Pagnol aussi, c'est-à-dire la possibilité de passer du rire aux larmes en un clin d'œil. Même si nos comédies sont un peu potaches, les rapports entre les personnages sont sensibles, forts et solides. Il y a une fraternité qui raconte l'amour qu'ils se portent. C'est un message important pour nous. Olay Sekpa, à la base, c'est vraiment adapté d'une série web.
Ah, je ne savais pas.
Oui, elle a fait ses premiers pas. Oui, avant le cinéma, les personnages de Sekpa sont issus d'une web-série à succès du même nom créée par Hakim Bouguerraba et Hichem Bougui en 2016 et disponible sur YouTube. Le premier film coproduit par le célèbre réalisateur Cyril Hanouna a suscité une polémique à sa sortie en raison de la représentation peu valorisante des élèves Sekpa, déjà stigmatisés de la société. C'est vrai que oui, on peut penser à ça aussi. C'est vrai qu'ils sont quand même pas mal visés là-dessus.
Ouais.
Donc les réalisateurs Ali et Hakim Bouguerraba dirigent dans le film leur frère, dont Hichem, qui participe aussi à l'écriture du scénario. Et Ali explique. Une fois la trame bâtie avec Hakim, nous en discutons avec Hichem en retouchant s'il le faut. C'est lui en effet qui travaille ensuite sur la véracité des propos et des dialogues, sur le champ lexical. C'est son délire. À 32 ans, il petit déjeune encore de céréales qui révèle plus de la confiserie comme un ado. Il est jeune physiquement et dans sa tête. Moi j'ai 47 ans, je suis très loin des Sekpa. Et Hichem détaille. Nous nous retrouvons en début d'écriture et à des moments critiques de l'avancement du scénario. Souvent même nous échangeons par téléphone. Le contact entre nous est permanent. Mais ne pas être tout le temps avec eux me permet de garder de la fraîcheur sur l'histoire. Nous avons à la fin un script validé, un fil conducteur, mais beaucoup de choses changent au moment du tournage. Les dialogues s'enrichissent énormément. Un autre membre de la fratrie, Redouane Bouguerraba, est aussi au générique du film dans la peau d'un ancien champion de patinage devenu homme de ménage de la patinoire. Donc l'humoriste, donc Maxime Gasteuil, et la danseuse Fauve Otto font une apparition dans les Sekpa au ski. Alors entre parenthèses, là je reviendrai un peu là-dessus dans les semaines à venir, on va recevoir Maxime Gasteuil au cinéma.
Très bien, c'est une très bonne nouvelle ça.
Ouais, il viendra, là j'en parlerai un peu plus sur les prochaines émissions.
Hein. D'accord.
Et on va recevoir sa visite, oui. Disons que ça commence à se profiler à l'horizon, hein, tu sais, rien n'est jamais bien, gagné d'avance.
On l'invitera dans l'émission.
Ouais.
Interview.
Donc le premier est un très bon ami des réalisateurs. Quant à la seconde, Ali et Hakim Bouguerraba ont été très agréablement surpris. Et comme ils nous disent, c'est la découverte d'une artiste complète. On ne devine que 2% de ce qu'elle est. Loin de son image de danseuse dans un programme télé. Elle est cultivée, érudite et elle est devenue une amie. Quand on l'a vue aux essais, on a eu envie de rajouter des scènes à son personnage tellement elle nous a bluffé. Donc Hichem Bouguerraba annonce qu'il n'y aura pas de troisième volet consacré aux aventures des Sekpa.
Ah, mais je pensais qu'ils allaient faire la plage.
Ouais, c'est vrai, moi aussi, je pensais qu'ils allaient le faire à la campagne. Nous allons tourner la page et cela me fait un petit pincement au cœur, mais je ne me vois pas faire un troisième film. Nous avoir raconté ce que nous avions à dire, c'est très bien. Nous passons à autre chose, ce qui est très bien aussi. Hein, tu sais, c'est vite de tourner un petit peu dans les mêmes schémas, les mêmes, et surtout le même humour, tu vois. Et ouais, puis je pense que s'ils se sont fait peut-être un petit peu chahuter sur le... l'emploi des Sekpa aussi.
Donc oui, je pense, ouais, c'est clair.
Donc voilà, moi je leur souhaite du succès, hein, 700 000 entrées pour un premier film, c'est très très bien. Hein. C'est vraiment un super score. Voilà, je leur souhaite du succès pour le prochain.
Voilà, on aura aussi une petite attention sur un acteur qui fait une apparition dans ce film. Il s'appelle Moussa Maskri. C'est un comédien qui a souvent joué avec, dans les films d'Olivier Marchal, que je te passe bien sûr à l'écran, que tu connais forcément, qu'on a déjà vu à la télévision dans des, dans des rôles relativement forts, policiers, etc. Et on le retrouve d'ailleurs dans ce film, dans la distribution des comédiens en tout cas. Donc ça sera aussi l'occasion de le retrouver à nouveau, mais sous un autre angle, on va dire.
Ouais, un peu plus léger.
Un peu plus léger, voilà.
C'est vrai que quand il tournait pour Olivier Marchal, oui, c'était à chaque fois c'était des rôles de bandits, non ?
Oui,
c'est
ça, absolument, aux policiers, tout simplement.
Aux policiers, d'accord.
Voilà. Mais c'est toujours intéressant de retrouver des comédiens comme ça dans des films différents.
Et d'autres registres, bien sûr.
Eh bien, on va écouter un extrait de ce rendez-vous cinéma à la Brèche cette semaine.
Oui, c'est l'année la plus
importante. Ferme ta gueule. C'est la dernière fois que tu m'interromps, t'as compris? Sinon, je viens chez toi, je séduis ta mère et je te fais des petits frères.
Ça fait 60 ans que le lycée s'affronte dans une Olympiade. Nous sommes la risée de tout le monde.
Mais pourquoi on n'appelle pas les Secpas?
C'est les Secpas dont on parle. De champion de ski qui vient de... Où est-ce que je me dis ?
Faites en sorte qu'il soit là dès demain.
C'est vraiment ski ?
Je suis piou-piou, je vais passer ma première étoile.
Ouais, donc tu sais pas skier.
La piste noire,
la voici.
Ah, moi j'y vais pas, c'est trop.
Oh, moi j'y vais, les gars.
T'es sûr que tu veux y aller ? Il y a des oiseaux qui volent en dessous.
Wouh ! Il doit se régaler, hein.
Ah, le ski, il est mort, là.
Le patinage, c'est cette flamme. Moi, je peux t'aider. Allez, Michel, suis-moi.
C'est Hichem, par contre, Hichem.
Et Michel, ça sonne mieux.
T'as déjà dit que tu avais la même voix que Didier Deschamps ?
T'étais en chaleur. T'es encore en très bredouille.
Non ?
Tu dors pas ici ?
Comment ça, je dors pas ici ?
Une femme, il est multiple. C'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta meilleure amie. Pourquoi tu crois que je suis encore avec Edouard ?
Je sais pas, pour les papiers.
Quoi, c'est pas ça ?
Avancez pour...
Les plus grands de ce monde sont des Secpas. Mark Zuckerberg et Bill Gates, deux gros Secpas. Tout ça pour vous dire que moi aussi, je suis un Secpas.
Restreint numéro 10.
Formidable, les copains. On est foutus.
Mais c'est bon, monsieur, je sens même plus mes pieds.
Ah, mais nous, on les sent, frérot. On les sent très bien, même.
Voilà, on va rigoler avec les Secpas au ski. Voilà, c'est le deuxième volet, le dernier, tu l'as dit, de cette série, en tout cas. Voilà, on partir à la montagne, ça va faire du bien. Et on enchaîne avec un autre rendez-vous cette semaine à la Brèche, Chasse gardée, là aussi on va bien rigoler.
Chasse gardée, oui, oui, alors là je pense que celui-ci va être...
C'est bien d'avoir des voisins sympathiques comme
oui,
ça.
Oui, des voisins qui chassent dans ton jardin.
La galinette, ah oui d'accord.
Oui, bah, c'est vrai en plus. Alors évidemment c'est un sujet brûlant, la chasse. Il mène quand même plusieurs sujets.
Ouais.
Déjà, le sujet de la chasse qui fait partie
tradition.
De lui. Oui, oui. On a eu encore un épisode il n'y a pas très longtemps d'un cerf donc, qui s'est retrouvé dans un jardin avec des chiens de chasse, tout ça.
Chaque année, voilà,
qui fait polémique. On a régulièrement des accidents de chasse.
Ouais.
Des passants qui prennent des projectiles dans la voiture quand c'est pas dans le corps. Il y a eu quand même des morts. Pas très longtemps. Voilà, c'est un drôle de sujet, on va dire, la chasse. Et c'est vrai que c'est quand même assez stigmatisé. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué, mais je ne voyais pas tous ces accidents-là, quoi. C'était vraiment dans ma jeunesse. Et c'est vrai que ça a pris des drôles de proportions. Et à chaque fois, c'est vrai qu'on leur casse vraiment du sucre sur le dos. Alors, il ne faut pas mettre tous les gens dans le même sac. Hein.
Absolument,
les chasseurs ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plutôt disciplinés, respectueux, qui font super gaffe avec la sécurité. Hein. T'as quand même un flingue dans les mains. Et voilà, donc ça, voilà. Donc là, évidemment, c'est du gros lâchage. J'ai vu des petits
annonces. Petit règlement de compte aussi avec des Parisiens et puis des compagnons, enfin des ruraux.
Voilà, c'était le premier sujet. Et le deuxième sujet qui est abordé, pareil aussi, hein, qui fait beaucoup parler de lui dans la presse, et c'est le sujet des néo-ruraux.
Ben oui, ces fameuses traditions.
Voilà,
le coq qui chante, l'église qui sonne, les cloches qui sonnent.
Et qui posent de plus en plus de problèmes, donc justement, aux ruraux, qui sont déjà sur place, qui ont l'habitude de vivre à la campagne, qui ont l'habitude de vivre à côté d'exploitations agricoles, avec on va dire, l'ambiance qui va avec. Quoi. C'est, 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 Et donc ça pose un gros souci, c'est-à-dire que de plus en plus de néo-ruraux qui arrivent à la campagne, en fait, ils veulent le silence. Souvent on leur dit, on veut le calme et le silence, mais le silence ça n'existe pas, le silence c'est dans l'espace. Tu vois, c'est le silence il est dans l'espace, il n'est pas sur la planète Terre.
Ah oui, c'est ça, ouais.
Donc à la campagne, évidemment.
C'est compliqué.
Il y a du bruit, oui, il y a des tracteurs, il y a les vaches, les chevaux, tout ça. Et de plus en plus, on se retrouve avec des procès rocambolesques. Mm-hmm. Bah, si je te dis Maurice Lecoq, le coq Maurice, tu vois, il était célèbre celui-ci. Mm-hmm. Voilà, parce qu'on lui demandait d'arrêter de chanter. Alors évidemment, les coqs, c'est vrai, hein, quand tu as la pleine lune, ils ont tendance à chanter à 4h du mat. C'est vrai, hein.
Non, mais
ils chantent la nuit, ça arrive.
Moi, ça me dérange pas.
Voilà. Et puis après, des coqs qui chantent, oui, effectivement, il faut savoir que les coqs chantent, mais pas que pour eux, pour les poules, en fait. Parce qu'en fait, si tu écoutes bien les coqs, en fait, ils se repèrent avec différents poulaillers, si tu veux.
D'accord.
Si, quand tu entends un coq chanter, il y en a qui se répondent aussi. Ils se répondent, exactement.
Ils se parlent.
Mais
autrefois, on n'avait pas de réveil.
Ils marquent leur territoire, ouais.
C'était aussi l'occasion de dire attention, le jour va se lever.
Donc voilà, donc il y a eu aussi la triste affaire là, de la mare qu'il fallait reboucher parce que les voisins ne supportaient pas les batraciens. Donc ils ont gagné leur procès. Les proprios ont été obligés de reboucher la mare, évidemment.
C'est fou, ça.
Après avoir enlevé tous leurs habitants, je tiens à le dire quand même, ils n'ont pas balancé de la terre sur des grenouilles. Ouais. Et voilà, il y a plein d'affaires comme ça. Et la dernière, quand même, où il y a eu quand même une grosse manifestation du village, et ça, je comprends. C'est un agriculteur qui a été condamné à payer 100 000 euros de dommages et intérêts à ses voisins parce qu'il est dans le village depuis peut-être plus d'un siècle. Sa famille est dans le village, ils font de l'élevage. Et, sauf que lui, il ne comprend pas trop parce qu'il a reçu l'agrément de la préfecture pour installer son bâtiment.
Ah ouais.
Il n'a pas dit que c'était un bâtiment pour mettre du foin ou de la paille. Hein, c'était vraiment un bâtiment d'exploitation.
Oui, c'était validé.
Avec tout ce que ça occasionne. Quoi. Mmh. Et donc là, il fait des bovins, tout ça, et les voisins ont réussi à remporter le procès, et ils doivent leur verser 100 000 euros. 100 000 euros, mais c'est délirant, quoi. Déjà, ils sont en crise, les éleveurs, agriculteurs sont en crise, et là, le gars, il va falloir qu'il débourse 100 000 euros, c'est énorme, c'est le prix d'un bâtiment. Mmh. En fait, ils lui font payer le prix du bâtiment, tu vois, ça va coûter 120, 130 000 balles. Je trouve ça vachement
triste. Les temps sont durs pour nos amis agriculteurs.
Donc, du coup, j'ai vu des images dans la presse où effectivement, t'as le maire qui monte au créneau, il y a une espèce de tribune avec des micros, les mecs, ils se lâchent, évidemment. Quoi. Ouais. J'imagine la gueule des voisins, quoi. Ouais. L'ambiance qu'il va y avoir après ça.
Ça va être hyper compliqué. Ouais.
Et oui. Et j'ai vu aussi de charmants citadins, je ne sais plus de quelle ville ils viennent, mais peu importe, qui s'installent, on va dire, dans le sud-est de la France, tu vois, près de la Méditerranée. Ils sont plein parce qu'il y a les goélands, du chant des goélands. Mm-hmm. Bon, mais voilà. Je dis, faut rester en ville, les amis, franchement. Vaut mieux rester en ville, vous serez vachement mieux, quoi. Parce que quand on va dans un endroit, quel que soit l'endroit, il faut accepter, il faut essayer de se fondre un petit peu dans le paysage.
Bien sûr.
Voilà. Et voilà de quoi parle un petit peu Chasse Gardée. Parle de ces sujets-là qui sont brûlants en ce moment, au niveau de l'actualité. Donc, c'est la dernière comédie d'Antonin Fourlon et Frédéric Forestier, un film français d'1h41. Donc, évidemment, on va retrouver Didier Bourdon.
Toujours dans les bons coups.
Qui chasseur, mais bon, évidemment, vous l'avez tous connu.
Ça me rappelle Les Inconnus.
Hein. Exactement. Le sketch, évidemment, hein. Évidemment qu'il a été ciblé un petit peu pour ça.
Le boule à noix.
Et oui, on va retrouver Hakim Djenoui, Camilo, Thierry Lhermitte, Jean-François Carré, Julien Pestel, Chantal Atsou et André Pinferne. Donc, dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adélaïde, à l'étroit, donc dans leur appartement parisien avec leurs enfants, c'est l'occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l'enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs sympathiques voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse. Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups sont permis, t'imagines bien. Donc Antonin Fourlon et Frédéric Forestier ont eu l'idée de cette migration d'un couple de Parisiens et de ses enfants vers la campagne pendant le confinement. Et les réalisateurs précisent. J'ai effectivement écrit cette histoire pendant le confinement que j'ai passé avec mes deux enfants en bas âge, dans 60 mètres carrés à Paris. J'avais des envies de grands espaces, je fantasmais déménager dans cette maison que je décrivais. Autour de moi, beaucoup d'amis partaient. Déjà avant le confinement, un bon nombre de Parisiens arrivaient à saturation à tout point de vue. Ça n'a fait qu'accentuer les choses. Donc avec cette comédie qui oppose la capitale à la province, les bobos aux chasseurs, Antonin Fourlon et Frédéric Forestier ont voulu véhiculer le message suivant. Aimons-nous les uns les autres, malgré nos différences. apprenons à vivre ensemble, à faire des compromis en essayant de trouver les choses qui nous lient. C'est en résumé le fond de cette histoire. C'est plutôt un film de réconciliation entre les chasseurs que j'ai fréquentés, qui sont souvent moqués, et eux-mêmes qui brocardent les néo-ruraux qui ne connaissent rien à la campagne et aux sauvages. Les deux camps peuvent être aussi ridicules en montrant que d'un côté et de l'autre, il y a des guet-apens. Enfin, des gens et des gens super, pardon. Donc, Antonin Fourlon et Frédéric Forestier ont déjà collaboré sur des projets qui n'ont pas encore abouti. La seconde confie. Antonin a écrit le film, je l'ai présenté à la production et nous avons décidé de le réaliser ensemble. Sur un tournage, il est toujours enrichissant de travailler à deux, de pouvoir s'appuyer l'un sur l'autre. Cela nous a permis en particulier de faire évoluer le script en permanence. Donc pour les personnages des Parisiens, évidemment, on va les sacrifier. De Simon et Adélaïde, Antonin Fourlon et Frédéric Forestier ont choisi Camille Lou et Hakim Djemili. Et comme il nous dit, j'avais fait des essais avec Hakim pour un autre film et je l'avais trouvé formidable. Il possède une palette de jeux assez large. Nous avions beaucoup aimé la fraîcheur et la candeur de Camille en la voyant à la télévision ou au cinéma. Ce qui s'est vérifié quand nous l'avons rencontrée. Elle est d'une expressivité incroyable. Elle rayonne, confie Frédéric Antonin. Il poursuit. Dans le scénario, Adélaïde était décrite comme une femme battante et Simon comme un mari un peu plus tempéré et vaneur. Donc, évidemment, on fait référence au sketch des Inconnus qui date de 91. Hein,
ça remonte.
Donc, les Inconnus avaient réalisé en 91 un sketch sur la chasse, devenu célèbre. Ce qui a bien entendu influencé Antonin Fourlon et Frédéric Forestier quant au choix du Didier Bourdon pour camper Bernard. Et oui, évidemment, et oui. Donc, les cinéastes s'en rappellent. Instinctivement, nous sommes allés vers lui. Et Didier n'a pas été dupe. C'est un sketch qui a fait date, qui a été et qui est encore beaucoup regardé car il a su séduire plusieurs générations. Didier a voulu évidemment s'en détacher même s'il n'a pas résisté à y faire un clin d'œil. Ce qui lui a plu, c'est la complexité du personnage, son authenticité, son évolution. Il fallait une proposition différente de celle du sketch, pas une caricature. Quand le sketch est sorti, la mode dans la chasse était, était au paramilitaire, mais cela a complètement changé. C'était intéressant de voir l'évolution 30 ans plus tard. C'est vrai qu'ils ont changé de tenue maintenant.
Ils sont orange fluo.
Ils sont orange fluo, oui, pour la sécurité.
Oui, ouais. On se voit mieux.
Déjà, c'est pour se repérer entre eux déjà. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que tu as certains gibiers en fait, qui captent pas l'orange. En fait, ils te voient pas.
Ah bon,
ouais, ils te voient pas.
Je savais pas.
Et c'est vrai que c'est souvent, surtout pour le chevreuil, le cervidé, si déjà l'orange, il le capte pas. Et surtout que moi qui fais beaucoup de photos à l'approche, tout ça, en fait, si tu ne bouges pas, il ne te détache pas dans le paysage.
Ah bon ?
Tu vois ce que je veux dire ?
D'accord.
Voilà. Mmh. Et c'est dès que tu bouges qu'il réalise que tu es un être humain.
Ok.
Et si tu es immobile, il fait sa vie.
Ah, c'est pour ça qu'il y a des chasseurs qui se tirent dessus, non ?
Peut-être. C'est dégueulasse.
Non, c'est affreux.
Alors évidemment, il y a des animaux partout. Évidemment, ah bah oui, chasse gardée, il comporte de nombreux animaux.
Des sangliers.
Des scènes relativement difficiles à gérer, comme l'explique Frédéric Forestier. Et oui, celles avec le chat ont été plutôt ardues. Pour le reste, il a quelques sangliers, mais surtout des animatroniques et des effets numériques.
Oui, j'imagine.
On perd en même temps. Autant on peut dresser un chien, autant c'est plus compliqué avec un sanglier ou un cerf. Et ça
répond pas pareil.
Non, j'en connais pas trop. C'est aussi l'époque qui veut ça. Comme dans les cirques, au cinéma, qu'on utilise de moins en moins d'animaux issus du monde sauvage. Et oui, c'est quand même assez réglementé là-dessus. Hein. Mmh. Et c'est pas plus mal, parce que maintenant, franchement, tu peux tout faire avec le numérique. Tu peux faire de l'inclusion, tout ça. Donc, Chasse gardée comprend une longue scène de banquet pantagruélique, ponctuée de chansons paillardes qui rend le milieu des chasseurs sympathique. Alors, j'imagine qu'ils ont dû y aller, là. Une séquence difficile à tourner, comme s'en souvient Antonin Fourlon et Frédéric Forestier. Cela nous a pris 2 jours et demi, et encore, c'était juste. Quand il y a beaucoup de personnages, on pense qu'on n'a jamais assez de temps pour bien filmer tout le monde. Le plateau était extrêmement bruyant, peuplé de nombreux figurants. La chaleur du mois d'août étouffante. L'ambiance. Entre chaque plan, tout le monde sortait. Il fallait du temps pour que chacun revienne. Donc en place. Nous avons chapitré la séquence en plusieurs parties parce qu'il fallait bien montrer les phases d'ébriété au fil du banquet.
Tu m'étonnes.
Donc chacune ponctuée par une arrivée de plat. Le tout avec de nombreuses prises pour chaque plan et des chants enregistrés en live, un mix de chansons paillardes de chasseurs et de chansons des compagnons du Tour de France. Donc Didier Bourdon a beaucoup réfléchi avant de s'engager sur Chasse gardée en raison du célèbre sketch, et oui, sur les chasseurs que les Inconnus avaient écrit en 91. Il explique « Je voulais m'en détacher, je souhaitais que le film soit plus dans la mesure que n'était le sketch. » Voilà, et comme il dit, ouais, il n'y a pas que des bons chasseurs, il y a aussi des mauvais chasseurs aussi, effectivement. Quoi. Donc voilà, ouais, c'est vrai que c'est un petit peu le rôle piège, hein, donc... Donc voilà, ça sera à découvrir à la brèche. Je crois qu'il y a pas plein de gens qui vont se reconnaître dedans.
On va bien rigoler.
Ouais, ouais, voilà. Après, c'est fait vraiment, vraiment pour rigoler. Mais je trouve ça bien aussi qu'ils remettent sur le devant de la scène, on va dire, toutes ces problématiques-là, entre les néo-ruraux et surtout les ruraux, donc ça, qui n'aiment pas aussi les néo-ruraux aussi. Il y a ça aussi. Hein, ils n'aiment pas. Tu sais, quand ils habitent dans des petits villages et que tu as t'es au milieu des champs et que tes voisins agriculteurs commencent à vendre des terres, mais parce qu'ils ont besoin de trésorerie, et que tu te retrouves avec un petit lotissement, ce qui se passe là. Il y a le grand boom, on va dire, là, je sais pas, depuis 10-20 ans, des maisons individuelles. Et c'est vrai que quand tu passes maintenant dans certains villages, tu as des zones entièrement dédiées à ça. Ce sont des zones de résidence, quoi, ni plus ni moins. Et c'est vrai que ça change un petit peu le paysage, on va dire, rural.
Voilà, et comme dirait Bernard dans le film, la sécurité.
Toujours.
Voilà, on retrouve un extrait et on se retrouve juste après.
On n'est pas mieux qu'à Paris, ici. Le bois aussi est à vous. Mais vous pouvez pas empêcher les gens de se promener dedans.
Ah, c'est rien, ça.
Bonjour, les Parisiens.
Vous savez, on n'est plus Parisiens, hein. On a emménagé, là.
Ça change tout. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Hein.
C'est génial.
Bonjour. À la campagne, c'est pas comme dans les grandes villes. On est solidaires.
Non.
Désolé.
Vous inquiétez pas, parce que la chasse, c'est mi-septembre, mi-février, donc c'est pas non plus...
5 mois.
Puis février, c'est un petit mois. Hein. Bon, tout le monde est là? Le mot d'ordre, c'est la sécurité. Compris? Tiens, André, merde!
J'appelle mon père, il sort les fusils, on sort le bazooka.
Votre problème, c'est que vous avez quitté les fous de Paris pour les tarés de la campagne. Vous allez vous trouver un terrain d'entente entre gens intelligents.
C'est bien, mon chéri, c'est bien. Vive la chasse aux Parisiens.
Ils ont mis du maïs dans le jardin, les enfoirés, pour les attirer.
Dégagez ! Je pense qu'il y a un petit risque d'escalade.
C'est un sanglier. Attendez, c'est pas une servitude, ça, c'est un terrain de chasse.
Si je vous l'avais dit, vous l'auriez acheté ?
Bah non !
Eh ben voilà !
Voilà, avec ambiance. Une Chantal là-dessous.
Qui revient au cinéma aussi, oui.
On va bien rigoler. Avec un Thierry Lhermitte aussi. Hein.
Et Thierry Lhermitte, oui, une grosse distribution, mine de rien. Mmh. Oui.
Voilà, rendez-vous n'a pas raté si vous avez envie de garder le sourire à la brèche cette semaine. Et puis enfin, la dernière sélection de cette semaine, Pascal.
On va parler d'un film qu'on aura en avant-première, Iris et les hommes, de Caroline Vignal, un film français, une comédie dramatique d'1h38. Hein. Au niveau des acteurs, on va retrouver Laure Calamy, Vincent Elbaz. Et ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, lui, hein, Vincent Elbaz.
Oui, effectivement.
Suzanne Debecq, Sylvain Catan, Laurent Poitrenaud, Nicolas Godard et Alexandre Steiger. Donc, un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant, tout va bien pour Iris. Mais depuis, quand n'a-t-elle pas fait l'amour? Point d'interrogation. Peut-être est-il temps de prendre un amant. S'inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boîte de Pandore. Les hommes vont tomber, comme s'il en pleuvait. Ça, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, c'est la porte ouverte.
C'est le nouveau moyen de communication.
Oui, oui, ouais, enfin, c'est communication. Ouais,
communication, je m'entends.
Oui, oui, oui. Donc voilà, donc ça sera Iris et les hommes en avant-première à découvrir donc à la brèche cette semaine.
Avec donc un Vincent Elbaz qui fait ses retours sur les écrans. Oui. Et comme tu le disais, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait revu. Et on est très très heureux en tout cas de l'accueillir. Moi je l'ai croisé, alors pas croisé physiquement, hein, je l'ai vu à la télévision dans un film assez triste hein, sur un loup. Une histoire de deux loups, on va dire. Récupère un petit. Lui pense que c'est un chien, en fait, et c'est en fait un bébé loup, tout simplement. Ah, oui. Et ça s'appelle Mystère, un très bon film qui
Mystère,
fait pleurer.
Ça y est, oui, ça, oui.
Triste.
Oui, voilà. On l'a passé à la brèche, ça c'est sûr, Mystère. Oui, exact.
Avec Vincent Elbaz, bien sûr, dans le rôle principal. Alors Pascal, on va revenir sur quelqu'un que tu vas nous présenter.
Alors avant, non,
mais apparemment,
j'ai
tu as une info
j'ai un petit
au niveau de la Dordogne et notamment au niveau du cinéma.
Et oui, parce qu'il est tombé dans le sud-ouest un petit papier sur les tournages qui ont été effectués dans plusieurs lieux de Dordogne et autres.
Ah oui, il y a eu pas mal de films.
Oui, dans le Lot, également. Ouais. La dernière comédie de Danny Boone où là, effectivement, ils sont venus chercher des décors, des vrais décors, en fait, dans les Bastilles.
Les chèvres, on s'appelle, non ? Pas ça ?
Exactement, les chèvres.
Qui va sortir en février.
Et pas la chèvre.
Oui, les chèvres.
Voilà, qui sortira donc au 21 février 2024. Ouais. Donc c'est la dernière comédie de Fred Cavaillé. Donc évidemment, il y a
Jérôme Commandeur.
Oui, il y aura Danny Boone, Jérôme Commandeur, hein, ainsi que Claire Schust, qui vient de la télé, qui vient de M6 et qui tournait dans Scène de ménage.
Ah oui, d'accord. Ouais. Tu vois ? Mm-hmm.
Donc l'histoire, elle est quand même assez cocasse parce que c'est l'histoire du procès d'un animal.
Oui, mais ça existait vraiment à l'époque.
Ça existait vraiment. Et je vous ai.
Les animaux, en fait, étaient jugés comme des personnes.
Ils étaient justiciables.
Bah ouais, mais enfin.
Devant les deux tribunaux. Ah oui, tu peux dire, ouais, mais enfin, mais en tout cas, ça. Non, mais tu vois, ça a commencé, on va dire, aux alentours du 11e siècle. 11e, 12e siècle, jusqu'au 18e.
Ouais.
Les animaux étaient justiciables. Mais devant les deux tribunaux. C'est-à-dire que tu avais le tribunal des hommes, c'est-à-dire le tribunal royal, et le tribunal ecclésiastique. Donc, c'est l'histoire de Maître Pompignac, hein, qui est joué par Danny Boone, qui est la risée du barreau, et qui pense avoir trouvé l'affaire de sa vie. Défendre la jeune et innocente Josette, accusée à tort du meurtre d'un maréchal.
Josette.
Oui, c'est Josette, la chèvre. Mais c'était sans compter sur son adversaire, le redoutable et réputé Maître Valvert, donc qui jouait par Jérôme Commandeur.
Ah oui, excellent, avec ses bigoudis, là.
Et donc, et surtout de Josette, hein, qui est évidemment la chèvre, que vous voyez sur l'affiche du film, entre parenthèses. Hein. Ça. Donc, c'est produit par Pathé, donc c'est franchement, ils ont sorti la grosse artillerie, là, beaucoup, beaucoup de moyens. Hein. Donc, les tournages se sont déroulés au Mans, à Paris, dans le Lot, à Saint-Cyr-la-Popie.
Ah oui.
Ainsi que dans la Bastide de à Jumillac-le-Grand. Donc, ça, c'est en Dordogne.
Ah oui.
C'est le nord de la Dordogne. Mm-hmm. Et Montpazier.
Montpazier, c'est pas si loin que
le sud, c'est juste à côté.
Ouais.
Donc, dans cette bastide du sud des départements, des centaines de figurants et de techniciens ont passé une douzaine de jours. Hein. La place du village avait été complètement transformée pour revenir aux années 1540. Et comme nous dit Fred Cavaillé, on a remonté le temps. C'est assez dingue, disait Fred Cavaillé dans Sud-Ouest. Je crois que je n'ai jamais vu un décor aussi beau. Alors, moi, j'ai vu la photo.
Oui.
Café Sud-Ouest, on en avait parlé un petit peu. Je t'avais dit. J'ai rarement vu autant de caca dans le centre d'une bastide parce que, franchement, ils ont déversé des tonnes et des tonnes et des tonnes de boue.
Ah ouais.
Hein ? Alors, normalement, si tu veux coller un petit peu à la réalité, je sais pas, tu mets de la paille, tu mets du foin qui traîne à droite à gauche. Non, là, c'est de la boue partout. Et j'ai peine à croire que les bastides ressemblent à ça. Sinon, ça servait à rien de les paver. Tu vois ce que je veux dire ?
Je vois, ouais.
Le pavage, c'est pour au moment faire un petit peu de ménage quand même, de temps en temps, quoi. Et là, il a fait une espèce de ouais, c'est un océan de boue. Et je trouvais ça quand même assez cocasse, quoi. Donc voilà, donc la grosse, grosse comédie, hein, donc avec Danny Boone et Jérôme Commandeur, dernier film de Fred Cavaillé, qui sortira donc le 21 février, donc 2024, dans nos cinémas.
Alors, on commence à voir quelques extraits de bande-annonce à la télévision et sur les réseaux sociaux, donc je pense qu'on ne rattrape pas cet événement, bien sûr, prévu pour 2024.
Absolument. Alors, juste mon petit papier, quand même, juste pour vous éclairer. Alors, oui, finalement, effectivement, on condamnait les animaux. Moi, je savais, j'avais eu vent déjà de truies qu'on avait pendues sur la place publique pour avoir, on va dire, dévoré des enfants, des choses comme ça. Hein. C'est déjà arrivé. Donc, les procès intentés aux animaux étaient des procès dans lesquels l'accusé était un animal qui se voyait reprocher un délit ou un crime. Il n'y avait pas que des crimes, mais aussi les délits. Ou un dommage, comme il l'aurait été à un être humain. Au Moyen-Âge, donc, et après, on condamna à la potence et au bûcher des cochons, des truies ou des vaches. L'Église étendit également ses excommunications des hommes aux animaux, comme, écoute bien, hein, des rats.
Ah bon ?
Des mouches.
C'est
des sauterelles. Des taupes.
Ouais.
Des poissons.
Ouais.
Voilà, tout ceci était excommuniable. C'est pour te dire quand même.
Ouais, mais enfin, c'est difficile de juger un animal. Hein. Il ne peut pas se défendre, en fait.
Non. Non, il ne peut pas se défendre. Ouais. Oui, c'est une très bonne observation. Absolument,
il
ne comprend pas. Ça, c'est sûr.
Je ne comprends pas.
Donc, durant l'Antiquité, attention, hein, la loi de Dracon ordonne la mise à mort d'un cheval qui a tué un homme. Si un bœuf cause la mort d'un homme, il sera lapidé. Je ne dis pas le chantier, quoi. Et au Moyen-Âge, 9 procès sur 10 impliquaient des cochons, car c'était les animaux les plus abondants à cette époque, évidemment, au niveau de l'élevage. Car ils avaient la faculté de vagabonder. Et étaient à même de commettre des délits. Et oui, d'aller détruire le champ du voisin, et ainsi de suite, quoi. Donc on trouve des traces de ces procès donc jusqu'au Moyen-Âge. Donc ça remonte jusqu'au 11e siècle, comme quoi c'était bien, bien ancré dans le paysage de cette époque. Et en 1386, alors, je vous donne un exemple, tu vois, un juge de Falaise condamne une truie pour avoir mordu mortellement à la jambe et au visage un enfant. Il l'a fait mutiler aux mêmes endroits, tu te rends compte, et pendre non sans l'avoir, donc humanisé, en l'affublant d'un haut de chausse, d'une veste et de gants blancs à ses sabots antérieurs. Tu vois la scène ?
Oui.
Les propriétaires des animaux pouvaient être pendus s'ils avouaient avoir connaissance du vice de l'animal. Donc le propriétaire était aussi justiciable. Et en 1479, à Lausanne, les hannetons ayant infesté le territoire et occasionné une famine dans le pays sont donc cités devant le tribunal ecclésiastique qui les excommunie, des hannetons. L'évêque condamne les hannetons par contumace du fait de leur absence au procès. C'est pour te dire jusqu'où va le burlesque. Alors nous, on peut se marrer, hein, mais là-bas, c'était vraiment très, 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 très sérieux. Donc l'exécution de ces arrêts donc, se faisait en public et avec la même solennité que pour tout autre criminel. Et le propriétaire de l'animal a été tenu d'y assister, et le pire dans tout ça, de payer tous les frais d'exécution. Et Dieu sait si c'était cher, le bourreau, tout ça. Donc voilà, donc, tout ceci n'est pas une fable.
C'est fou, hein.
Ça a vraiment, vraiment existé. Hein. Et ça, c'est juste un petit papier qui vous brosse le tout, mais on pourra en écrire des pages et des pages entières. Donc là, oui, effectivement. Alors évidemment, c'est ce que veut dire que tout être humain, tout être vivant était justiciable devant le roi et devant Dieu. Il pouvait passer devant les deux tribunaux. Ces deux tribunaux qui existaient à l'époque. Quoi. Donc ça implique vraiment la toute-puissance déjà du clergé et la toute-puissance royale, effectivement, hein, qui avait droit de vie sur tous ces sujets, petits et grands, rampants, volants. Tu vois.
Donc voilà, avoir les chèvres.
On voit toute puissance, on va dire. Voilà,
les chèvres en 2024 sur les écrans.
Voilà pourquoi la chèvre. Alors c'est vrai que si balance un petit peu le script comme ça, les gens qui sont pas au courant vont dire mais c'est quoi ce truc hyper loufoque et tout. Non, c'est vraiment tiré d'une histoire vraie. Ouais. Alors dans le film annonce, oui, il y a la petite mention quand même. Tiré d'une histoire vraie.
Ouais, voilà. C'est important.
Et oui, parce que sinon tu poses quand même beaucoup de questions.
Merci pour ces détails, mon cher Pascal. Alors, on va revenir sur une comédienne que vous allez voir dans Chasse gardée, avec son accent, sa façon de parler, sa gouaille.
Ouais, elle vient du Nord, hein.
C'est Chantal Latsou.
Ouais. On va parler de Chantal Latsou, de sa filmographie. Alors, évidemment, c'est une actrice française qui est née le 5 mai 1948 à Roubaix.
Ouais.
Ce qui nous fait une jeune fille de 75 ans.
Bah, elle est jeune.
Ça va, on a encore la pêche. Ouais, hein.
Ouais.
Donc Chantal Latsou, c'est 40 années de carrière, hein, 48 films et séries tournées, et Dieu sait si elle a tourné des séries. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même issue du milieu de la télé à la base.
Oui, oui.
Si bien que dans sa filmographie, de 83 à 90, elle est dans la série, une série super regardée d'ailleurs. Ça te dit rien ?
Bah, je vois pas.
De 80, Maggie.
Ah oui, Maggie.
Maggie. Toutes les mamies le regardaient. Donc on la voit sur son premier long métrage en 91 dans Une époque formidable de Gérard Jugnot, grand film.
Très bon ça.
Avec Richard Bourringer, Victoria Abril, tout ça. C'est un très
Tiki Carillon.
Tiki Carillon dedans, oui. Ah non, et il y avait aussi Tiki Olgado, pardon.
Tiki Olgado, ouais. Je confonds toujours. Ouais.
En 2003,
le boiteux là.
Ouais, exactement. On le verra dans
il y avait Mimosa aussi qui jouait dans
ouais,
le film.
Ouais, le grand balèze là, ouais, l'armoire à glace là.
Mimosa.
Non, c'était vraiment un super film, Une époque formidable.
Une équipe.
En 2003, on la verra dans Les clés de bagnole de Laurent Baffy, avec Daniel Russo et Pascal Selem. En 2005, on la verra dans Les Aristos de Charles de Turckheim, avec Javed Weber et Vincent Desania. En 2013, on la verra dans 100% Cachemire de Valérie Lemercier, avec Gilles Lelouch et Marina Foïs. On la verra ensuite en 2017 dans Alibi.com. Alors, elle va vachement tourner pour Philippe Lachaud.
Ça, c'est... Oui, c'est vrai.
Franchement,
Philippe Lachaud, il adore.
Ouais. Tout ce qu'il y a après, on le voit toujours avec Philippe Lachaud, entre autres, et avec Élodie Fontan, Julien Ruti. En 2018, Nicky Larson, Le parfum de Cupidon, de Philippe Lachaud. En 2019, 30 jours max, de Tarek Boudali, avec Tarek Boudali et Philippe Lachaud. En 2020, Les municipaux, trop c'est trop, de Francis Guimbre, de Francis Ginibre et Éric Carrière. En 2021, Super héros malgré lui, de Philippe Lachaud. Avec Julia Ruti et Tarek Boudali. Et en 2023, 3 jours max,
Oui, que vous avez diffusé à la brèche, ouais, tout à fait.
De Tarek Boudali. Donc, comme quoi, vraiment, elle est vraiment pote avec Tarek Boudali et Philippe Lachaud, qui apparemment adore la prendre dans ces films-là. Donc voilà un petit peu pour vous donner une petite idée sur sa filmographie. Alors Chantal Latsou, née le 5 mai 1948 à Roubaix dans le Nord, est une actrice et humoriste française. Formée au Conservatoire de Lille et au Cours Simon à Paris, elle est révélée au public en participant à l'émission La Classe. C'est vrai qu'on a oublié ça.
Oui,
aussi,
avec Fabrice.
Oui, avec Fabrice, à la fin des années 80.
C'était sur la 3, je crois.
Elle se produit dans des spectacles solo, des pièces de théâtre, des films, des séries télévisées et des téléfilms. Elle est partout un petit peu, hein, Chantal Latsou. Hein. Et ils oublient
en fait,
la radio.
Elle aime bien faire de la promo. Ouais. J'aime bien. Je pense que c'est quelqu'un qui aime bien faire les plateaux de télévision. Elle sait souvent.
Absolument. Oui, oui, oui. Et puis elle a toujours après la pêche. C'est, après, c'est une voix aussi. C'est une voix, c'est un personnage hein, qu'elle s'est créé quand même. Chantal Latsou, assez rude, tu vois. C'est, ouais. C'est une nana un peu épaisse, tu sais. Mais par contre, tu vois, elle a eu vraiment une drôle de une drôle d'enfance quand même. Alors, son grand-père, donc, il a dirigé l'Orphéon municipal de Tourcoing. Veut qu'elle chante dès son plus jeune âge. Mais son père, entrepreneur dans le bâtiment, souhaite qu'elle reprenne son entreprise.
Oui, c'est le grand écart, là.
Tu vas voir. Sa mère, au foyer d'origine parisienne, l'emmène souvent avec son frère dans la capitale voir des pièces de théâtre. Elle s'inscrit, écoute bien là, elle s'inscrit seule au cours d'art dramatique du Nord à l'âge de 7 ans. Et il va toute seule.
Ah oui.
Elle perd sa mère dans un accident de voiture à l'aube de ses 16 ans. Son père la place alors en pension à Paris, où elle termine ses études et décroche son baccalauréat en 1968. Elle rejoint sa région natale pour se former au Conservatoire de Lille, puis en 1974 au Cours Simon à Paris. Comme quoi, elle a quand même une formation très très classique, mais quand même assez poussée. Le Cours Simon, c'est pas donné à tout le monde. Donc après quelques rôles anecdotiques au cinéma, Chantal Latsou participe au Petit Théâtre de Bouvard, sur Antenne 2. On l'a oublié celui-ci aussi.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Mais ce n'est cependant qu'à la fin des années 80 que la comédienne est véritablement révélée au public en participant à l'émission, donc La Classe 2. Elle a alors la quarantaine. À cette même époque, elle intègre de façon récurrente la série télévisée à succès, donc Maggie. Elle s'est aussi fréquemment produite sur scène dans des spectacles solo, écrits notamment avec Pierre Palmade ou François Rollin, mais également dans des pièces de théâtre comme Les Amazones. Vedette du théâtre de boulevard, elle a pour marque de fabrique son timbre de voix reconnaissable et assez masculin, son franc-parler et sa diction rapide. À ce sujet, elle avouera dans un spectacle solo, un mec m'a dit « Moins je vous comprends, plus je ris ».
Ça, c'est vrai. Ouais. Ça passe bien, ouais.
Depuis avril 2010, elle est sociétaire de l'émission « Les grosses têtes » de Philippe Pouvoir sur RTL. Elle reste dans l'émission après l'arrivée de Laurent Ruquier à la présentation en 2014. En septembre 2011, aux côtés d'Anthony Cavana et Camille Combal, Chantal Latsou participe à Big and Tasty, premier clip musical de Maxime Torres, vers le montant de la scène électro-française produit par le DJ international Laurent Wolf. En novembre 2011, elle participe à l'album de Thierry Galli, Il était une fois, en soutien à l'action donc de l'UNICEF. En 2012 et 2013, elle joue dans Adieu je reste avec Isabelle Mergault, puis en 2014 et 2015 dans Nelson aux côtés d'Armel et de sa fille, Clémence Anceau. Donc voilà un petit peu pour vous donner quelques éclairages sur la carrière de Chantal Latsou. Alors nous on la voit d'une manière assez simple, en grosse déconneuse et tout, mais ouais. Derrière il y a du boulot.
Elle a commencé très jeune.
Franchement,
hein.
Elle est passive quand même, qui est quand même assez studieux et voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu touche à tout.
Voilà, son mari Michel Anceau est un manager aussi. Voilà, je pense qu'ils doivent travailler ensemble tout simplement, mais Michel Anceau est connu pour être dans le milieu artistique.
D'accord.
Hein,
aussi. Mm-hmm. C'est qui aide, c'est qui doit aider.
Oui, absolument, ouais, ça ouvre des portes, effectivement. Merci Pascal pour ces rendez-vous cinéma. Allez à la brèche, faites-vous plaisir.
Chasse gardée, c'est les vacances. Tout ça pour revenir à chasse gardée, oui, ça va vraiment déménager. Et puis voilà, c'est pour rire. Pareil, faut rire, se détendre et tout, et pas prendre tout ceci non plus au sérieux, quoi.
Ouais, absolument. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette nouvelle année, Pascal ?
Mais plein de choses. Plein de choses, la santé déjà, c'est important. Hein.
Ouais.
La santé, et j'espère que nous, déjà à la brèche, on aura une très bonne année cinématographique, comme celle qu'on va. On est en train de finir là.
Ouais.
On va regarder un petit peu les chiffres là, mais on est en constante augmentation. Hein. C'est ce qui est chouette et ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces gens-là qui viennent au cinéma de plus en plus. Donc voilà, nous on croise les doigts de ce côté-là, évidemment. Quoi.
Alors Pascal, on se retrouvera en 2024,
ouais.
Et très vite d'ailleurs.
Très vite d'ailleurs.
Et je te laisse sur vos affaires alors.
Eh bien, prenez soin des vôtres. regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et bien faites la fête pour le premier de l'an, voilà, décompressez, retrouvez-vous en famille, prenez du temps pour aller au cinéma, pour aller voir tous ces films-là. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Bonne fête, Christophe.
Merci, à très bientôt, aussi,
à la semaine prochaine.
À très vite.